Et c'est parti pour Big Bang. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons explorer ce que la science sait de l'autisme. Qui n'a jamais rêvé de toujours se souvenir de tout, de pouvoir faire des liens entre des phénomènes qui semblent complètement disparates, de calculer sans effort ou de dessiner une ville entière dans ses moindres détails en ne l'ayant vue qu'une seule fois? Dans l'imaginaire collectif, parfois alimenté par des films ou des séries, ces compétences extraordinaires existent dans la population, mais elles ne viennent pas sans leur revers, en général une incapacité à communiquer ou une autre forme d'inadéquation sociale, car on ne peut pas tout avoir. Ces films, c'est par exemple Rain Man, un road movie dans lequel Charlie Babbitt, joué par Tom Cruise, voyage avec son frère Raymond Babbitt, joué par Dustin Hoffman, qui vient d'hériter de toute la fortune de leur père. Raymond a des capacités qui semblent surhumaines, comme de pouvoir compter en un coup d'œil que 246 cure-dents sont tombés par terre. Mais il est incapable de gérer les interactions sociales qui déclenchent chez lui des crises violentes. Ces séries, c'est par exemple la série policière Astrid et Raphaël, diffusée sur France 2 depuis 2019, dans laquelle Sarah Mortensen joue le rôle d'Astrid Nielsen, documentaliste judiciaire, dotée d'une concentration exceptionnelle et d'une mémoire hors du commun, mais très en difficulté lors des interactions sociales. Ces deux personnages, Raymond et Astrid, sont autistes. Ils véhiculent l'idée qu'un ou une autiste est un être humain spécial, doté d'une part de capacités exceptionnelles et, d'autre part, de troubles ne leur permettant de s'exprimer ou d'interagir qu'avec une grande peine. Alors que beaucoup aujourd'hui parlent de neuroatypie pour expliquer un rapport au monde qui leur semble différent, il est possible que les personnages fictifs que sont Astrid et Raymond ne soient qu'une facette, certes un peu caricaturale, d'une condition bien plus répandue et vaste qu'il n'y paraît, l'autisme. Alors qu'est-ce que c'est, l'autisme? Est-ce une maladie? Peut-on la soigner? Est-ce une condition génétique? Naît-on autiste ou le devient-on? C'est justement pour y voir un peu plus clair sur ce que la science sait de cette condition qui touche environ 1% de la population que j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés trois invités exceptionnels.
Bonjour, je suis Thomas Bourgeron, je suis professeur à l'université Paris-Cité. Mon laboratoire est à l'Institut Pasteur et je travaille sur la génétique depuis le XXe siècle. Et en 2003, j'ai identifié ces premiers gènes associés à l'autisme dont je vais vous parler.
Bonjour, je suis Steph Bonobrier, je suis experte d'usage dans l'autisme. J'ai cofondé plusieurs associations, dont la fédération OTOP, qui regroupe des associations qui ont été cofondées ou gouvernées par des personnes en situation de handicap, et je travaille en recherche participative.
Je m'appelle Laura Laune, je suis comédienne humoriste. J'ai eu mon diagnostic de TSA il y a quelques années, donc ce qu'on appelait avant syndrome d'Asperger. J'en parle tous les soirs sur scène dans mon spectacle de façon humoristique et je suis là aujourd'hui pour en parler de façon scientifique.
Laura Laune, Thomas Bourgeron, Steph Bonobrier, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec le public du studio 621 de la Maison de la Radio. Vous écoutez Big Bang et nous allons parler autisme.
France Inter. Christophe Galfard.
L'autisme, c'est quelque chose dont on entend souvent parler. On ne sait pas forcément très exactement, lorsqu'on fait partie du grand public, ce que ça signifie. Mais contrairement à ce qu'on peut croire en essayant de distinguer ce qui pourrait être éventuellement psychologique, psychosomatique ou scientifique, voire mélanger les deux, la façon dont une société peut voir les individus à l'intérieur de notre société change la façon dont nous sommes et la façon dont nous vivons notre quotidien. Et avant de partir sur peut-être la recherche pure en génétique que vous pratiquez, Thomas notamment, je voulais avoir une petite idée de ce qu'était la vision d'une société par rapport à l'autisme et peut-être une définition de ce qu'est l'autisme. Thomas Bourgeron.
Oui, alors les définitions, effectivement, ont changé au cours des années. Donc c'est en 1925, en fait, qu'une psychiatre ukrainienne a identifié les premiers cas d'autisme. Mais ça n'a pas été cette personne qui a été créditée pour l'autisme. Et en 1943, il y a eu Léo Kanner et en 1944, Asperger, qui ont identifié des personnes qui avaient des troubles de l'interaction sociale, des stéréotypies, donc ils refaisaient les mêmes choses, et des intérêts restreints. Ils étaient très très spécialistes de certains aspects de la vie, et aussi une difficulté au changement. Et donc ça, c'était 1943-1944, et la plupart des personnes avaient, en tout cas deux tiers, avaient aussi des gros troubles de l'apprentissage. Et petit à petit, les gens ont commencé à comprendre ce que c'était que l'autisme. Asperger avait déjà montré qu'il y avait des personnes autistes sans réelle déficience intellectuelle. Et on a eu maintenant, après, ce syndrome d'Asperger qui est arrivé beaucoup plus fréquemment. Et on a eu cette image un peu de l'autiste génie.
Génial, oui.
Voilà. Que j'appelle l'autiste de Hollywood, de TF1. Voilà. Donc, et dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Et il y a beaucoup de gens entre ces deux caricatures.
Les deux caricatures étant la personne qui
les
a du mal à...
Les personnes qui vont découvrir quel est le criminel ou qui vont vous soigner. Et puis les personnes qui sont très très en difficulté avec des automutilations. Et ça, c'est la vraie vie de certaines personnes autistes. Et donc, il y a beaucoup de monde entre les deux. Qui sont difficiles, mais ça on va en reparler. Et la génétique permet maintenant de voir un peu mieux ça, et je trouve que c'est important. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on détecte mieux. On va peut-être en reparler, mais les femmes sont mieux détectées qu'avant. Il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Maintenant, ça s'équilibre un peu mieux. On était mauvais pour diagnostiquer les filles.
Ce que vous êtes en train de dire peut-être quelque part, c'est que, si je comprends bien, jusqu'à relativement récemment, l'autisme était détecté de manière clinique, c'est-à-dire qu'on regardait des
comportements. Il faut toujours un diagnostic clinique. Oui. Hein. Donc ça, c'est un diagnostic qui est fait par un psychiatre et qui est très standardisé. Donc ça, c'est très important d'avoir ça. Par contre, effectivement, ça a changé. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une épidémie d'autisme, parce qu'en fait, on détecte beaucoup mieux l'autisme qu'avant.
Est-ce que vous pourriez, Steph Bonobrier, dans votre présentation au début, vous avez dit que vous étiez experte d'usage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie ?
Disons qu'aujourd'hui, il y a effectivement une meilleure reconnaissance et aussi une avancée des personnes directement concernées. Alors, c'est pas que dans l'autisme, hein, on a les personnes qui ont été concernées par le sida, les alcooliques également, l'alcoolique anonyme, etc., bien avant nous. Ce sont en fait les patients qui deviennent acteurs. Voilà, donc il y a une association qui s'appelle les patients impatients, les impatients. Je crois que ça porte bien son nom. C'est quand le savoir expérientiel, finalement, demande, au même titre que les autres savoirs, les savoirs académiques, à avoir une place à part entière et à compléter. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un savoir qui est supérieur à un autre. Mais aujourd'hui, dans la recherche participative dont je parlais dans ma présentation, les experts d'usage, ce sont les personnes directement concernées. Ça peut être aussi les familles, c'est un savoir aussi expérientiel, différent, complémentaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, la parole des personnes qui vivent un handicap, une maladie, une condition, devient un savoir à part entière qui vient compléter le savoir des scientifiques au même titre qu'un autre savoir. C'est-à-dire qu'on vient en complémentarité et donc on participe à la recherche à part entière.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de recherche à laquelle vous participez ?
Avec Thomas, on est effectivement dans un projet là, européen qui s'appelle R2D2MH. Donc c'est risque, résilience et la santé mentale, dans la santé mentale, avec des personnes, des adultes autistes, des adultes avec un TDAH également, donc trouble de l'hyperactivité, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et il y a dans ce projet donc européen un co-creation group, donc un groupe avec des adultes directement concernés, des familles, et il y a même un groupe avec des adolescents.
Et vous recherchez quoi ? C'est une vision clinique, une fois, pour voir le comportement, pour voir les interactions qui peuvent avoir lieu ?
Là, on est aussi vraiment dans un projet aussi de recherche fondamentale, ce qui est assez novateur, parce que effectivement, d'habitude, on est plutôt inclus dans des recherches en sciences sociales. Je pense que le projet qui est mené par Thomas, déjà à une échelle européenne, et dans une recherche fondamentale, donc vraiment aussi sur la recherche de biomarqueurs, même s'il y a dans les work packages, dans les groupes de travail, effectivement aussi un aspect plus clinique, on a un groupe clinique, mais on est également inclus sur tout ce qui est imagerie, tout ce qui est génétique, Donc c'est vraiment là, être impliqué dans la recherche à part entière et travailler sur l'accessibilité aussi de cette recherche aux experts d'usage.
Laura Lone, ça, vous dites que vous avez été diagnostiquée d'un syndrome d'autiste aussi. Est-ce que la façon dont la société voit les autistes a pesé d'une manière ou d'une autre sur ce que vous êtes ?
Oui, ça c'est sûr. Ça a pesé sur comment mon autisme s'est exprimé au quotidien, parce que je pense que j'ai eu mon diagnostic de façon assez tardive et j'ai très vite senti, quand j'étais plus jeune, que j'étais différente et que la différence n'était pas très bien acceptée par la société. Donc en fait, très vite, on comprend que si on veut ne pas trop sortir du moule, il faut absolument cacher le plus possible ses traits autistiques. Et c'est là que ça devient aussi un handicap de plus en plus invisible, parce qu'on apprend vraiment à camoufler, à devenir presque indétectable. Et ça, c'est clairement le regard de la société qui nous fait apprendre à masquer, à camoufler énormément. Et ça rend aussi les choses difficiles, parce que moi, aujourd'hui, quand j'en parle, je fais souvent face à des gens qui me disent « bah de toute façon, c'est pas possible, chez toi, ça se voit pas, moi, mon petit frère, il est autiste, il est pas comme toi. » Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'invisible veut pas forcément dire moins intense, et que ça va aussi beaucoup dépendre de comment on masque et de comment aussi on a envie de masquer, parce que je pense que c'est aussi personnel. Moi, je sais que c'est vrai que souvent les femmes se disent, si je veux être inclus, il faut absolument que je sois comme tout le monde. Et j'ai commencé ma vie en voulant absolument me fondre dans le moule.
Thomas Bergeron.
Par exemple, ce que les adolescents nous ont dit, donc ils ont fait une session pendant l'Assemblée Générale de R2D2 du projet européen. Et en fait, ils ont dit deux choses importantes. Un, le diagnostic. Ça a été très important pour eux. Ils avaient eu le diagnostic d'autisme ou de TDAH vers 8 ans, 11 ans. Là, c'était. Mais pour eux, c'était super important pour voir pourquoi ils étaient un peu différents, d'accepter un peu plus cette différence. Et la deuxième chose, ils ont dit éduquez vos parents. Et c'était aussi important pour avoir accès au diagnostic, pour que les parents comprennent un peu mieux leurs différences. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très importantes et typiquement c'est ce que nous apprennent aussi les personnes autistes ou les personnes concernées. Parce que nous, par exemple, le diagnostic c'est important, mais on est plus sur des aspects dimensionnels, de comprendre quel est le niveau d'intensité, d'interaction sociale, voilà, des choses comme ça. Et là, le diagnostic, ils remettent ça en avant en disant « oui, non, c'est quand même très important d'avoir un diagnostic ».
Par rapport à ce diagnostic en particulier, quels sont les marqueurs, disons, cliniques qui vous font dire qu'une personne a potentiellement une forme d'autisme ?
C'est là la complexité. Enfin, en tout cas, c'est très très complexe, mais en gros, il n'y a pas de marqueur. C'est les trois critères diagnostiques, je vous ai dit, c'est à peu près c'est les interactions sociales atypiques. Donc ça peut être trop d'interactions, mais pas avec les codes sociaux, ou au contraire, un retrait sur soi, donc il y a des petites différences. Ces intérêts restreints, ces stéréotypies qui sont présentes. Et puis quelque chose qui est venu des personnes autistes elles-mêmes, c'est les aspects sensoriels. Où là, c'est quelque chose qui était pas trop étudié, et ça c'est vraiment un point important, l'hypersensibilité auditive par exemple, et ça on n'a pas quasiment pas, les chercheurs n'ont quasiment pas de données sur ça, ce qui est incroyable. On a beaucoup de données sur le comportement des personnes, mais pas beaucoup sur comment ils voient le monde, et comment ils sentent le monde, comment ils entendent le monde, et pourtant c'est peut-être ça qui les gêne le plus. Nous, les neurotypiques, on est gênés peut-être par leur comportement, mais bon, il faut peut-être accepter un peu plus des comportements atypiques. Et puis, par contre, les aider à peut-être mieux appréhender le monde qui les entoure de façon plus simple pour eux, quoi.
Lors des expériences que vous pouvez faire au niveau européen ou même français, est-ce que la façon dont vous vous dites que les différentes personnes ont une perception différente du monde va avoir un impact sur ce que vous faites, Steph Bonobrier ?
Oui, je pense que la perception, Thomas a raison, c'est vraiment intrinsèque à l'autisme et c'est quelque chose sur lequel on a aujourd'hui peu justement de marqueurs qui nous permettent effectivement de faire rentrer en fait cette donnée essentielle dont les personnes autistes témoignent et dont beaucoup d'experts d'ailleurs reconnaissent la valeur, mais sans marqueurs biologiques, génétiques, sans biomarqueurs, c'est très difficile en fait de faire entrer cette donnée dans un diagnostic. Par contre, je reviens un peu sur le diagnostic clinique. Lui est très normé et très clair. C'est-à-dire qu'on a vraiment une dyade autistique composée de 1, la sociocommunication, parce que dans les interactions, il y a la communication. Et deux, le bloc, effectivement, alors il y a les intérêts restreints, il y a aussi tous les comportements stéréotypés. Voilà, parce que tout le monde n'a pas d'intérêt restreint en fonction finalement de son niveau aussi cognitif. Donc il y a aussi tous ces mouvements répétitifs que vont avoir aussi les personnes autistes. Donc c'est très normé, mais c'est clinique. Ça peut sembler quand même incroyable de se dire qu'une condition aussi complexe que l'autisme sur lequel il y a autant de recherches n'est pas un seul élément du diagnostic qui repose finalement sur un biomarqueur. Pas un seul. Donc finalement, les aspects sensoriels dont on m'a parlé, c'est un sous-item du deuxième bloc qui n'est pas forcément nécessaire au diagnostic. Donc on est encore très pauvre quand même sur cet élément-là. Et pour vous dire à quel point ça reste encore léger, c'est que on parle parfois d'hypo ou d'hypersensorialité ou réactivité, et là ils ont bien employé le terme de réactivité. Or la différence entre hyposensoriel ou hyporéactif, c'est que quand on dit réactif, c'est que c'est un comportement, la réactivité.
Qui signifie quoi ?
Est-ce que l'enfant réagit finalement à un son, à une odeur, etc. Si on était sur de l'hyposensoriel vraiment, ou de l'hyper, ce serait un seuil neurologique par rapport à la sensorialité, ce qu'on est incapable d'évaluer aujourd'hui. Donc, on est bien encore sur du comportement. Or, quelque part, une réactivité sensorielle, on va le retrouver aussi, des gens qui peuvent être hyper ou hypo, on le retrouve dans d'autres handicaps, maladies, pathologies, où on peut être beaucoup plus sensible à des sons, à des odeurs. Donc, voilà, les enfants ont quelque part la chance d'avoir une anamnèse. Quand on arrive chez les adultes, l'anamnèse est beaucoup plus complexe, l'histoire de l'enfance, du développement.
C'est ça qu'anamnèse signifie.
L'anamnèse veut dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les adultes, ça devient de plus en plus complexe de faire aussi le diagnostic.
Parce qu'il est camouflé par d'autres...
Alors moi, le camouflage dont parle Laura, vous voyez, c'est quelque chose sur lequel moi, par contre, je ne me reconnais pas. Alors, est-ce que c'est ma génération ? Je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas quel âge a Laura et les ados, je le comprends mieux parce qu'ils ont accès à une information qui leur permet peut-être de composer un peu plus et d'être diagnostiqués un peu plus jeunes. Moi, ça, je ne vois pas comment j'aurais pu. Moi, je n'étais pas la génération encore Internet. Et du coup, essayer de faire semblant, il a fallu que j'attende mon diagnostic à l'âge adulte pour essayer de me conformer. Je savais un peu mimer les autres, j'essayais de faire comme les autres, mais le camouflage ne me parle pas. J'étais comme j'étais, et j'étais plutôt très maladroite du coup, mais je me rendais compte parfois que ça allait pas, mais le camouflage ne me parle pas du tout. Voilà. Donc, oui, on essaye de faire au mieux, on essaye d'imiter un peu ce qu'il y a autour de nous, parce qu'on se rend compte, en tout cas, certains profils, et peut-être les femmes, des fois, un peu plus que les hommes, quoique, j'aime pas trop les généralités. Il y a des hommes qui sont aussi très subtils, puis des femmes qui peuvent aussi l'être moins par rapport à ça. Mais il faut faire attention, je trouve qu'on parle beaucoup du camouflage. Je ne pense pas que ça parle à tout le monde et que toutes les femmes aient eu accès à ça. Par contre, une fois qu'on a l'information, je crois que c'est surtout l'accès à l'information qui font que, quand on sait, on essaye d'utiliser des outils pour essayer de rentrer un peu plus dans les cases. Après, attention à la suradaptation aussi. Il faut que tout cet ajustement ne devienne pas une suradaptation qui va nuire à la personne en termes d'énergie et finalement d'acceptation de soi aussi.
Thomas Bourgeron.
Oui, juste sur le camouflage, c'est vrai qu'il y a de la recherche vraiment très très bonne qui est faite sur le camouflage et en particulier des travaux qui montrent que les... Alors, comme a dit Steph, c'est aussi des hommes qui camouflent, mais c'est largement des femmes. Et les femmes qui camouflent leur autisme ont beaucoup plus d'anxiété, de dépression. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Et après, je pense que là on fait des progrès parce que je pense qu'on détecte mieux, on a beaucoup plus. Je pense que la génération qui arrive là est beaucoup plus tolérante sur la neurodiversité. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'il y a plus de personnes autistes. Je pense que ça veut dire qu'on détecte mieux les gens. Voilà.
Eh bien, on va partir dans la science génétique de l'autisme dans quelques instants, juste après avoir écouté 240 000 pros d'astéréotypie.
L'iPhone du futur est un super produit. L'iPhone du futur sera l'iPhone 240 000. Et celui qui sera à la taille au-dessus sera l'iPhone 240 000 Pro probablement. Il sera complètement différent. Il fera rasoir grâce à l'application Rasage. L'iPhone 240 000 et le 240 000 Pro pourront aussi contrôler le temps qu'il fait. Il y aura l'application Control Weather sur cet incroyable iPhone. Sur l'iPhone 240 000, il y a l'application Vaisseau, c'est-à-dire qu'on peut créer un vaisseau super rapide. Avec ce vaisseau, je peux aller à New York en 2 secondes, par exemple. C'est un super téléphone. Dites bonjour au plus incroyable des iPhones de tous les temps. Ce produit sera une merveille de la technologie. On pourra difficilement résister à la tentation. iPhone, donne-moi la force de ne pas t'allumer. Éloigne-moi de toi. iPhone, tu es un poison, tu me gâches la vie. iPhone, éloigne-moi des réseaux. iPhone, invite-moi au restaurant. Paye tout en son contact, sans utiliser mon argent. Cesse de me manipuler. Ne m'empêche pas de voir le monde extérieur. Éloigne-moi de la dépression, de l'énorme angoisse. iPhone, crée-moi un chat en hologramme. Active sa fonction, ronronnement. iPhone, donne-moi d'autres iPhones.
Vous écoutez Big Bang, nous sommes avec le public du studio 621 de la Maison de la Radio et nous parlons autisme avec la comédienne, musicienne et humoriste Laura Lone, l'académicien, chercheur en génétique et neurosciences Thomas Bourgeron et l'expert d'usage pour la recherche participative Steph Bonnet-Briet.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Alors, on a entendu en première partie d'émission que, en cliniquement parlant, il y a quelques indices qui peuvent nous mettre sur la voie d'un diagnostic d'autisme. Mais il me semble, Thomas Bourgeron, que votre travail a été justement d'essayer de trouver des biomarqueurs, des indices dans génétique qui pourraient être à l'origine de l'autisme.
Oui, tout à fait. Donc, on savait depuis les années 70, par des études de jumeaux, on voyait que les vrais jumeaux, qu'on appelle jumeaux monozygotes, se ressemblaient plus que les jumeaux dizygotes, ça vous le savez. Mais pour l'autisme, c'était vrai aussi. Quand il y avait un jumeau monozygote, son jumeau monozygote avait beaucoup plus de probabilité d'être lui-même autiste, donc c'était à peu près plus de 90%. Et les jumeaux dizygotes, qui sont un peu comme des frères et des sœurs, il y avait un peu moins, il y avait 30-50%, ce qui était déjà beaucoup. Et donc, ça, c'était une idée, voilà, il y avait une contribution génétique. Mais tout le monde s'est posé la question, où sont les gènes, quelles sont les variations génétiques. Et donc, j'ai eu la chance, en 2003, d'identifier ces premiers gènes associés à l'autisme. Et ces premiers gènes codent des protéines qui sont à la synapse. Donc, vous allez devenir généticien en quelques secondes. Mais en gros, dans votre génome, donc vous avez 3 milliards de lettres, ATGC, il n'y a que 4 lettres. Et ces 3 milliards de lettres, il y a une lettre sur 1000 qui est différente entre vous et moi. Donc on a à peu près 3 millions de variations génétiques entre vous et moi. Donc la plupart du temps, on est pareil sur notre génome. Mais
le vous, c'est pas
variations.
Que moi, hein, c'est n'importe qui écoute
cette émission. Deux personnes, oui. C'est entre deux personnes. Oui, ça serait... Mais donc ça serait, à mon avis, super triste si tout le monde était pareil, si tout le monde était des jumeaux et des clones. Donc heureusement, on est tous un peu différents. Et ces variations génétiques, je dis toujours qu'il y en a un peu de 3 types. Il y a celles qui font quasiment rien, où là, vraiment, vous avez un A, moi j'ai un T, vous avez un G, vous avez un C. Et voilà, les gens dans la salle ont des lettres un petit peu différentes, ça fait rien. Des fois, ça fait des petites choses, donc ça fait qu'on est blond ou brun, ce qui n'est pas non plus une catastrophe, et quelque chose de très très différent. Et puis des fois, on a des variations qui font qu'on va avoir quelque chose de très différent de la personne qui est à côté de vous. Donc c'est un peu ces variations très très faibles, un peu, enfin moyennes, et puis des variations très fortes. Et donc quelquefois, dans l'autisme, on a une seule variation génétique sur les 3 milliards de lettres que vous avez, qui va faire que vous êtes autiste. Et ça, ça a été, même moi encore 20 ans plus tard, je suis étonné. Donc on trouvait des mutations chez des personnes qui soit étaient avec ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger, donc des personnes autistes sans troubles du développement de l'apprentissage, et des fois des personnes qui avaient une seule mutation et qui ne parlaient pas. Donc ça, c'est maintenant, on appelle ça de l'autisme monogénique, donc mono, un seul, et génique. Voilà, donc avec un seul gène, et ça a été une révolution. Et donc maintenant, en 2026, là, on connaît à peu près 1800 gènes dans le trouble du neurodéveloppement, et 200 gènes qui sont plus spécialement impliqués dans l'autisme. Donc ça, c'est les formes un peu monogéniques. Et puis on a les formes polygéniques, où là, donc vous avez des dizaines de milliers de variations génétiques qui sont dans votre génome et dans le génome de pas mal de gens dans la population. Bon, vous avez ces variations, ça peut être un peu sous le radar, vous avez des petits traits autistiques, et puis des fois, ça s'accumule chez l'enfant, et là, ça fait que la personne va avoir plus de probabilité d'être autiste. Et donc, je mets toujours un peu cette image de... Si vous avez un orchestre et vous avez une chanteuse devant, si elle s'arrête de chanter, vous allez tout de suite entendre la différence. Si c'est le quatrième violon qui joue, qui s'arrête de jouer, sauf si vous avez des oreilles extraordinaires comme les gens de Radio France, vous n'allez pas entendre la différence. Mais par contre, si tous les violons s'arrêtent de jouer, eh bien, là, vous allez entendre la différence. Eh ben, c'est un peu comme ça, le génome. C'est qu'il y a des variations, quand elles sont présentes, on entend tout de suite la différence. On voit que la personne est différente. Et puis, des variations qui font qu'on est peut-être un tout petit peu différent, mais... Quand ça s'accumule, c'est un peu le pointillisme. Hein, vous voyez, plus on a les pointillés, plus on voit l'image, ou plus il y a de gouttes, plus on voit la vague. Ben, c'est un peu ça. C'est qu'on a ces variations génétiques qui vont faire qu'on est un peu différent. Et donc, on les connaît mieux, ces variations. On sait qu'elles sont présentes chez les personnes autistes, qu'elles sont présentes aussi chez des personnes avec beaucoup plus d'anxiété. Et donc ça, c'est super important, parce que c'est une révolution, enfin c'est très récent, c'est les 5 dernières années là, où on commence à comprendre un peu mieux notre vulnérabilité génétique. Il n'y a pas que la génétique, clairement, hein, dans la vie, mais il y a quand même des gens qui sont plus ou moins en difficulté, et donc de reconnaître ça, c'est je pense, important, et c'est pas une fatalité. D'accord, c'est pas parce qu'on a une variation génétique qu'on est obligatoirement en difficulté, mais par contre, on peut être un petit peu en difficulté et la société peut nous aider.
J'ai deux petites choses par rapport à ce que vous venez de dire. La première, vous n'avez pas cité, mais ces gènes, c'est donc ces lettres à TCG, c'est l'ADN, oui, évidemment, qui est en nous et qui a l'information génétique de ce que nous sommes, disons. Et vous avez dit à un moment, et je sais que vous ne l'avez pas entendu comme ça, vous avez dit qu'il s'accumule chez l'enfant, des variations qui s'accumulent chez l'enfant, des mutations qui s'accumulent chez l'enfant.
Mais oui,
c'est avant la naissance, bien entendu.
Non, vous avez raison. C'est en fait, ça s'accumule, c'est un terme qui peut être
mal interprété. Oui.
Bien sûr, vous avez raison. Donc en fait, les parents, donc on transmet ces gènes à ces enfants, et donc les parents ont peut-être des variations qui donnent des petits traits autistiques chez les parents.
Chez les enfants ?
Non, chez
les parents eux-mêmes, d'accord.
Voilà. Et par contre, le papa et la maman vont transmettre des variations génétiques, et là, l'enfant va avoir plus de variations génétiques qui donnent des probabilités élevées d'être autiste. Et donc, l'enfant va peut-être avoir le diagnostic d'autisme. Par exemple, vous avez 500 variations génétiques chez le papa, 500 variations génétiques chez la maman, et l'enfant va avoir les 1000 variations génétiques qui vont faire qu'il a plus de probabilités d'être autiste.
Je précisais ça pour une raison en particulier, c'est qu'il me semble que pendant longtemps, il a été culpabilisant pour les mères d'avoir des enfants autistes, car on pensait que c'était son comportement à elle,
ouais,
notamment pendant la grossesse, voire la façon de vivre, qui avait eu comme conséquence l'autisme de l'enfant. Mais on sait aujourd'hui que ce n'est absolument pas le cas.
Ah oui, non, il y a vraiment là, je veux le redire et le redire, ça a été incroyable. Les parents ont été culpabilisés. Évidemment, quand je dis les parents, les pères sont rarement en cause. C'est surtout les mères qui ont été culpabilisées. Et ça, je pense que la génétique a apporté aussi déjà quelque chose qui était important, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoignages de parents qui disaient bah, on sait maintenant pourquoi notre enfant a un autisme et on n'y est pour rien dans notre façon de l'avoir éduqué, de l'avoir repoussé, quoi.
Laura Lone.
J'avais une question. En fait, ces mutations génétiques, elles arrivent de façon complètement aléatoire à un moment donné dans l'ADN. Ou alors est-ce que, et donc après elles se transmettent aux générations, ou est-ce que c'est lié à l'environnement, donc à l'épigénétique, et c'est ça qui crée une mutation?
Alors, en fait, oui, quand j'ai dit que les formes monogéniques, là, avec une seule variation, on a un autisme, la plupart du temps, c'est des variations qui arrivent de nouveau, on appelle ça. Donc, les parents l'ont pas.
OK.
Et l'enfant, là.
Et ça, c'est...
Et ça, ça arrive...
Ça apparaît au hasard, une mutation?
Ça arrive au hasard, okay. Exactement. Donc, on a à peu près 60 par génération. Ça dépend de l'âge du père, en fait. Parce que le père continue à faire des gamètes, continue à faire des spermatozoïdes, alors que la maman a son stock d'ovocytes au début de sa vie. Le père continue, donc si le père est âgé, il y a un peu plus de mutations de nouveau, mais à peu près 60 mutations de nouveau. Des fois, ça tombe dans des régions du génome qui ne sont pas du tout importantes, et des fois, ça tombe dans un gène qui fait qu'on on peut pas parler.
Donc, ce n'est pas forcément lié à l'environnement, ça peut être...
Alors, il n'y a pas d'effet de l'environnement pour l'instant là, qui a été décrit sur ces aspects-là. Après, je ne sais pas si tu vis à côté de Tchernobyl, si tu n'as pas un peu plus de mutations que quelqu'un qui vit je ne sais pas où. Voilà. Donc, c'est sûr que... Mais là, c'est vraiment très, très corrélé à l'âge du père. Et c'est normal. Il faut voir ça aussi. Malheureusement, des fois, c'est négatif parce que ça tombe dans des gènes qui sont extrêmement... vital, des fois le bébé meurt, hein, donc ça peut être des mutations très 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 graves. Mais c'est aussi la source de notre diversité. Mm. Si on n'avait pas cette petite différence à la réplication de l'ADN, on serait, il n'y aurait pas eu d'évolution déjà. Hein.
Oui, bien sûr.
Donc, j'ai une petite question pour Steph Bonobrier. Est-ce que l'idée qu'on ait pu identifier certains gènes pour l'autisme donne une vision d'un futur dans lequel on pourrait, entre guillemets, soigner l'autisme? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous, ou est-ce que c'est une idée qui est complètement absurde?
Je crois qu'aujourd'hui, en fait, on ne se pose pas la question comme ça. Déjà, on n'en est pas là. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, les professionnels et les chercheurs que je côtoie sont plus dans une idée d'amélioration dans les actions éducatives auprès des personnes autistes que dans une action curative. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même avoir en tête l'ensemble du spectre de l'autisme. Il y a des personnes autistes dont je fais partie qui ont, et c'est pas sans difficulté, parce que je crois qu'il y a aussi une caricature là-dessus sur les personnes à même de parler, qui ont leur capacité cognitive préservée ou un QI au-dessus de la moyenne, n'ont pas de problème et n'ont pas de difficulté. Je crois que c'est... Voilà, faut pas oublier que dans l'autisme, les premières causes de mortalité, c'est l'épilepsie, mais aussi le suicide. Donc, dans les personnes qui se suicident, ce sont des personnes qui ont souvent des bonnes capacités cognitives. Donc, je dis juste que, par contre, on a aussi certains de nos pères qui ont des troubles associés qui les conduisent à être dans des très grandes difficultés au quotidien. Et donc, on ne peut pas se passer de progrès de la science qui les aiderait à mieux vivre, parce qu'il y a l'autisme et il y a aussi tout ce qui se greffe à côté de l'autisme et qui empêche de parler, mais aussi parfois de déglutir, de se déplacer, et parfois un trouble du développement intellectuel profond. Voilà, met les personnes dans des troubles du comportement terribles, etc. Donc, moi, j'ai pas peur du soin, quand c'est un soin respectueux qui améliore la qualité de vie et l'autonomie des personnes. Après, je rentrerai pas dans le débat de faire effectivement de l'eugénisme, etc. Parce que ça, c'est le grand débat pour lutter contre la science, en fait. Parce que je crois que les chercheurs ne sont pas du tout dans cette optique aujourd'hui. Et il faut pas se passer à un moment donné, comme pour toute maladie, tout handicap, toute condition, d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc je suis peut-être candide en disant ça, mais je crois connaître quand même beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs, je crois en une recherche, encore aujourd'hui et en France, qui va dans ce sens-là pour les personnes autistes.
Thomas Bourgeron.
Oui, donc au laboratoire, on dit autisme plus. Autisme avec un S, parce que c'est très varié, on a discuté. Et plus, parce que c'est rare que l'autisme arrive isolé. Des fois, il y a des troubles de l'apprentissage très sévères avec une déficience intellectuelle. Dans 25% des cas, il y a une épilepsie, il y a des troubles du sommeil, il y a des troubles sensoriels, on en a parlé. Et c'est souvent le plus qui est au quotidien pour les personnes autistes et les familles, sont vraiment les gros problèmes. Et je pense que ça, si on arrivait déjà à améliorer le plus, les co-occurrences médicales, eh bien, on améliorerait énormément la vie des gens et qu'après, les gens puissent s'épanouir dans leur diversité. Mais il y a vraiment quand même des gens qui sont en très grande difficulté avec des automutilations. Donc je pense qu'il y a besoin aussi d'une recherche médicale dans ce domaine.
Vous allez publier bientôt un papier sur la recherche que vous avez appelé avec le groupe R2D2, c'est ça ?
Oui, donc le projet R2D2, donc je l'ai appelé R2D2 pour risque, résilience et diversité développementale en santé mentale. Et l'idée, c'était de mieux comprendre effectivement à la fois le risque. J'ai passé ma vie à trouver des gènes qui font qu'on va pas bien. Donc je voudrais passer le reste de ma vie à trouver des gènes qui font qu'on va bien. Et donc de mieux comprendre pourquoi certaines personnes qui sont mutées dans un gène impliqué dans l'autisme vont plutôt bien. Elles sont pas obligatoirement autistes. Elles sont des fois autistes, mais elles vont bien. Et en fait, d'avoir cette idée qu'on peut... Alors, il y a le terme résilience est toujours un peu maintenant utilisé à tort à travers, mais en gros, c'était important pour moi de montrer que si on avait une mutation, c'était pas obligatoirement une chose mauvaise. D'accord ? Et que je pense que de trouver les gènes, c'est trouver le meilleur environnement. Et si on pouvait mieux comprendre pourquoi certaines personnes vont bien... Ça irait bien. Il y a une personne autiste qui a rejoint R2D2 dès le départ, qui a dit « Résilience, moi, ouais, ok, mais par contre, j'ai eu de la chance. » Et donc, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse trouver des... Il faudrait comprendre pourquoi certaines personnes ont eu la chance de s'en sortir et d'autres sont partis en vrille.
Je comprends. Nous allons écouter La Perla de Rosalia et Yaritza Isuesantia. Et juste après, nous aurons les questions du public.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la...
Yeah.
écoutez Big Bang, nous sommes avec le public du studio 621 de la Maison de la Radio et nous parlons autisme avec l'académicien, chercheur en génétique et neurosciences Thomas Bourgeron et l'expert d'usage pour la recherche participative Steph Bonobriet et l'humoriste, comédienne, musicienne Laura Lone. Et en attendant les questions du public, je crois que juste après le jingle, Laura Lone avait quelque chose à nous dire.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Laura Lone.
Oui, non, je voulais juste souligner que je trouvais ça très important, Thomas, que vous parliez du fait qu'une mutation, c'est pas forcément négatif. Et ça rejoint aussi ce que Steph disait sur le fait que quand on parle de changer la condition des autistes, c'est surtout améliorer la vie. Parce que ça me fait toujours un peu bizarre quand j'entends le mot soigner l'autisme, parce que c'est pas une maladie. Et je sais que ça touche vraiment à l'identité. Pour moi, je voudrais surtout pas ne pas être autiste, en fait. Et je sais que c'est le cas de plein de gens, même s'il y a plein de choses qui sont très dures à vivre au quotidien, mais pour moi, ce serait hors de question de changer ça chez moi. Et donc, par contre, je serais vraiment preneuse d'améliorer des choses que je vis difficilement au quotidien, de par le fait que je sois autiste. Ça, oui, ça d'accord. Mais soigner l'autisme, ça me fait toujours un peu bizarre quand j'entends ça. Je voulais dire, il y a aussi du positif là-dedans.
Nous avons une première question de Johan.
Donc moi, je voulais savoir si vous pouviez m'aider à concrètement me parler de qui aller voir pour poser un diagnostic, mais plus particulièrement chez un adulte. Et subséquemment, s'il existe déjà des outils pour aider, que l'on peut trouver gratuitement ou aller se renseigner. Merci.
Steph Bonobriet.
Alors effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup œuvré, notamment à travers les plans autisme et maintenant la stratégie actuelle, stratégie pour les troubles du neurodéveloppement. Donc il y a déjà les centres de ressources autisme. Alors c'est vrai qu'en Île-de-France, on est un des seuls centres de ressources autisme qui ne pose pas les diagnostics. Tous les autres, en principe, le font, mais il y a des centres experts. Voilà, il y en a partout et il y en a particulièrement en Île-de-France qui sont là pour ça. Par contre, les délais d'attente sont très longs. Voilà, il faut avant passer souvent par son psychiatre, etc. Donc quand on n'en a pas, c'est compliqué. Voilà, mais il y a quand même une démarche qui peut être faite auprès des centres experts et on peut avoir un ensemble d'informations auprès notamment d'Autisme Info Service, qui est la plateforme d'information nationale. Et il y a le libéral, quand on peut aussi passer par le libéral, mais il faut être bien orienté et être sûr, si on voit un psychologue, qu'après ça va être validé par un médecin. Faire très attention à ça, le psychologue est effectivement habilité à passer tous les tests, notamment, que ne fait pas le psychiatre lui-même, mais il faut vraiment que ça soit un médecin, donc il faut s'assurer de ça. Et Autisme Info Service, à mon avis, aujourd'hui, est la meilleure plateforme d'écoute qui a l'ensemble, il y a un annuaire avec les coordonnées, voilà, qui peuvent être fiables également.
C'est la même chose pour les enfants et adolescents ?
Alors, je vais peut-être... Oui, Autisme Info Service répond également aux enfants et aux adolescents. Pareil, il y a l'ECRA et il y a des centres diagnostiques rattachés à certains hôpitaux qui respectent évidemment les bonnes pratiques pour recevoir également les enfants. Et pareil, cette plateforme donne toutes les indications et Thomas va compléter aussi parce qu'effectivement, on est également en lien avec un nouvel institut du cerveau de l'enfant, rattaché à Robert Debré.
Thomas,
oui,
bonjour.
Donc c'est un nouvel institut qui va avoir des murs, mais il va avoir un nouveau bâtiment en 2028 à l'hôpital Robert Debré.
Et ça va être à Paris. Hein.
Ouais, à Paris, ça va être un peu une révolution parce que actuellement, donc là, je parle des jeunes enfants. Quand il y a des troubles du développement, de l'apprentissage, souvent on va voir le généticien. Quand il y a une épilepsie, on va voir le neurologue. Et quand il y a des troubles un peu autistiques ou de l'hyperactivité, on va voir le psychiatre. Et en fait, souvent, je vous l'ai dit, c'est souvent il y a des personnes qui ont autisme, plus déficience intellectuelle, plus épilepsie. Donc en fait, maintenant, ça va être moins en silo. Ça va être beaucoup plus lié à la recherche. Les personnes concernées vont j'espère, participer activement à la recherche. Et donc, ça va permettre de mieux comprendre aussi de la perspective des personnes. C'est pour ça que, pour moi, la recherche participative, c'est ce qu'on a fait dans R2D2, mais maintenant, de plus en plus, on le fait dans d'autres pays, autres que la France. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que, comme disait Laura, ça fait partie de soi, quoi. Donc, il faut qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui va pas, mais c'est peut-être les personnes qui doivent découvrir ce qui ne va pas et ce qui est mieux pour eux. Voilà, donc ça, c'est des choses, c'est un vrai dialogue.
Notamment parce que dans ce que j'entends de vos discours à tous et toutes, là, c'est que pendant très très longtemps, la recherche a été focalisée sur ce qui n'allait pas et qu'il est très possible de aussi faire de la recherche sur ce qui va.
Oui, et puis on expliquait l'autisme aux personnes autistes sans les écouter, ce qui était quand même un peu dingue. Après, et en plus, il y a eu des avancées énormes par les personnes autistes, en particulier, par exemple, les intérêts restreints, les stéréotypies. La plupart des thérapies comportementales essayaient de restreindre ça. Et en fait, les personnes autistes ont dit, mais non, ça nous aide à réguler nos émotions. Et donc, maintenant, on a changé nos façons aussi de voir ce qu'il fallait un peu améliorer ou pas. Et donc, juste pour les parents et pour les personnes autistes, il y a Clipsy, qui est un site qui peut être vu sur le site de l'hôpital Robert Debré, Clipsy, et qui est plein de petites de fiches très pratiques sur comment gérer le quotidien et pour les personnes concernées.
Nous avons une question de Lynn.
Oui, j'aimerais savoir quels éléments est-ce que vous aimeriez voir le plus évoluer au sein de la société en tant qu'autiste ?
Peut-être Laura, vous voulez commencer ?
Moi, j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus connu et que les gens aient l'habitude de le voir, en fait, et ce qui ferait qu'on ne serait plus obligé de masquer et d'essayer de se fondre dans la masse et de pouvoir... enfin, je vois Steph qui met ses lunettes et son casque et qui l'assume totalement. Moi, je ne le fais pas parce que je me dis, bah non, tout le monde va se trouver ça bizarre. Donc, la lumière, c'est compliqué pour moi aussi, mais voilà. Et c'est vrai que si on pouvait simplement vivre nos difficultés ouvertement et que personne ne trouve ça bizarre, ça nous aiderait beaucoup.
Steph ?
Alors... Moi, c'est vrai que je suis engagée dans beaucoup de commissions et d'instances. Donc, c'est vrai que l'autisme, c'est pas qu'on le revendique, mais c'est que effectivement aujourd'hui, on est encore à ce stade de, il faut le faire connaître, reconnaître, accepter. Moi, j'espère qu'un jour, en fait, on arrivera à se dégager des mots, en fait, des diagnostics en soi, et qu'on soit plus dans une société, effectivement, où les atypicités, mais aussi les handicaps... moi, j'aspire beaucoup à ces pays où, finalement, culturellement, les enfants sont dans les écoles tellement tôt, dans le quotidien des gens tellement tôt, qu'en fait, on ne se pose plus trop la question de se dire est-ce que c'est de l'autisme, est-ce que c'est du trouble du développement intellectuel, est-ce que... Voilà, qu'il y ait une acceptation, finalement, sociétale, où on n'ait plus besoin de se mettre... une étiquette, parce que finalement, aujourd'hui, moi, quand on me voit, moi, je peux pas faire sans. Donc, sincèrement, moi, j'ai 15 ans de psychiatrie derrière moi, j'ai failli laisser ma peau, donc je suis plus une paire de lunettes prêt pour me dire que je suis bizarre ou pas. Mais aujourd'hui, on a presque envie de se dire, vous inquiétez pas, je suis autiste, quoi. Et on se dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a vu une émission. Et voilà, il faudrait qu'à un moment donné, la personne bizarre, elle arrête de soulever le regard, en fait. Voilà. Et qu'on n'ait pas besoin de dire « excusez-moi, je suis autiste » ou « excusez-moi, je suis en situation de handicap ».
On espère tout ça, évidemment, à la fois pour vous, mais pour nous aussi, pour la société tout entière. On arrive à ce moment de l'émission où, normalement, je vous fais écouter un petit son mystère que je vous fais découvrir à vous trois. Mais alors, je suis persuadé que deux sur vous trois connaissez le son que nous allons entendre. Du coup, c'est à Laura Lone que je vais essayer de le faire découvrir. On va écouter ensemble un petit son et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez que c'est.
Ça ressemble à un animal, ça ressemble à des cris d'animaux. Ça me fait penser à ça en tout cas. Peut-être ça pourrait être.
Oui,
ça pourrait être des souris.
Oh, incroyable! Moi, j'aurais jamais retrouvé. Oui, ce sont des souris. C'est un son de souris que nous avons entendu à l'instant, mais ralenti 20 fois. Je vais vous le faire écouter maintenant en temps réel. En temps réel, et c'est le même son qui va être répété plusieurs fois. Là, en temps réel, vous allez entendre 5 ou 6 fois d'affilée. Il faut que vous écoutiez bien, ouvrez bien vos oreilles. C'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose en ralenti. Où on entend du coup là les modulations en ralenti qu'on n'entendait pas avant. Les vrais sons sont des ultrasons. C'est-à-dire que nos oreilles ne peuvent pas les entendre, ce qu'on vient d'entendre là. Donc ça a été baissé en fréquence pour qu'on puisse les entendre avec nos oreilles. Et ces sons ont été enregistrés par Elodie Hay, qui est chargée de recherche au CNRS, attachée à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire. Et je lui ai demandé pourquoi elle s'intéresse à ces sons-là.
Ces vocalisations-là nous intéressent pour mieux comprendre les interactions sociales entre les souris. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce point particulier des souris ? C'est que ces animaux sont utilisés comme des modèles pour mieux comprendre des conditions telles que l'autisme. Et en effet, on peut invalider des gènes associés à l'autisme sur ces souris et ensuite étudier leurs interactions sociales. Comme l'autisme est caractérisé par des interactions sociales atypiques, il est intéressant de comprendre donc le mécanisme entre une mutation génétique et le phénotype social qu'on observe. Donc on va essayer de caractériser au maximum ces interactions sociales chez nos modèles d'autisme. On essaye de quantifier les différences qui existent entre les souris portant une mutation associée à l'autisme et les souris contrôle, donc qui n'ont pas été mutées, en décrivant ces interactions sociales, donc le comportement et les vocalisations. Donc on va faire une analyse acoustique poussée de ces signaux. Et par exemple, sur un modèle que nous avons étudié, nous avons vu que les animaux portant une mutation associée à l'autisme émettent des vocalisations plus courtes et plus simples, moins modulées en fréquence, dans des séquences plus courtes aussi, ce qui pourrait traduire une réduction de la motivation pour interagir avec les congénères de la part de ces animaux au modèle d'autisme. Et par ailleurs, ces animaux émettent aussi des vocalisations dans des fréquences plus basses. Et par rapport à tout ce qu'on sait sur la communication vocale chez la souris, les vocalisations de fréquences plus basses pourraient traduire une perception plus négative des interactions sociales. Et là, ça nous intéresse vraiment, puisque sur des modèles d'autisme, c'est quelque chose qui correspondrait à l'hypothèse d'un retrait au niveau de l'interaction sociale. Donc en mesurant ces vocalisations, ça nous permet de décrire plus précisément les anomalies comportementales qu'on détecte, de mieux les comprendre, et ça va être utilisé par exemple lorsqu'on fait des potentiels essais de thérapeutiques ou pour comprendre un mécanisme, de voir si tout le répertoire comportemental est rétabli ou affecté, ou si on n'en rétablit par exemple qu'une partie si on essaye un traitement.
Thomas Bourgeron, j'ai envie de vous demander quel est le lien que vous avez éventuellement découvert entre ces gènes dont on vient d'entendre parler et le cerveau lui-même ?
Ouais, donc là, de trouver des gènes c'est bien, mais comprendre ce qu'elles font c'est encore mieux. Donc en fait, très rapidement, parce que les premiers gènes étaient impliqués dans ces synapses, ces contacts entre les neurones. Et en fait, donc je vais pas vous faire 3 heures de cours, mais 30 secondes. En gros, ces variations génétiques vont aussi varier le nombre de synapses, de contacts entre les neurones que vous avez dans votre cerveau. Et on ne sait pas exactement dans quel circuit, c'est assez compliqué de voir. Par contre, c'est vrai que ces petites souris, comme disait Elodie, bonjour Elodie, parce que c'est super, elle est incroyable cette chercheuse, eh bien, montre qu'on a, c'est incroyable, je trouve, c'est une variation génétique et les souris vont avoir des problèmes de vocalisation, des problèmes d'interaction sociale, de motivation sociale. Donc c'est aussi important de voir que l'autisme, c'est pas que humain, entre guillemets. C'est aussi ces interactions sociales, ces sensorialités. On le retrouve chez d'autres animaux. Et je trouve que c'est aussi important de voir que en fait, cette diversité, elle est présente un peu dans tout le règne animal. Et voilà. Donc je pense que c'est ça qu'on essaye de comprendre au niveau du cerveau, où c'est, mais pour mieux comprendre et après pour mieux intervenir quand les gens en ont besoin.
Quand ils sont en détresse, notamment. Et le temps file, c'est déjà la fin de Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, Thomas Bourgeron et Steph Bonneau-Briet. Merci à vous, Laura Lone. Votre spectacle Glory Alléluia est actuellement en tournée en France et au Canada. Tournée qui se terminera par le Zénith de Lille le 19 avril lors d'un show retransmis en direct dans les cinémas de France. Et merci évidemment au public du studio 621. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la technique Mathias Alléon, à la vidéo Jérôme Ragano, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et à la programmation Élodie Royer, relayée par Laura Dumez. Si vous voulez assister aux émissions de la semaine prochaine, la billetterie est ouverte. Il y aura un direct à 11h et un enregistrement à 15h30 à la Maison de la Radio. En attendant, tous les Big Bang sont à podcaster sur l'appli Radio France ou sur votre plateforme préférée. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Instagram, @christophegalfard. Tout de suite, après le journal, nous retrouvons Thomas Snegaroff pour le grand face-à-face. Bonjour Thomas, de quoi allez-vous nous parler ce midi ?
Bonjour Christophe, à l'honneur la biodiversité avec l'exceptionnel Marc-André Sellos.